Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Après une semaine et surtout un week-end où nous avons retrouvé le 15 de France, suivi pour certains un combat de MMA qui s'est joué à une écharde évidemment. On va retrouver une belle équipe aujourd'hui ensemble sur cette belle émission qu'on va vivre évidemment jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à... Ouh, pendant une heure ! Une heure, ça c'est sûr, oui, Arwan me fait des grands signes, oui, évidemment. Il est l'incontournable, l'irremplaçable, l'indispensable. Bienvenue, Corentin.
Bonsoir, Jonathan, bonsoir à tous et merci pour ce lancement.
vous connaissez, c'est avec plaisir, évidemment. Est-ce que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end ?
J'ai passé une très bonne semaine, un bon week-end, puisque j'ai réussi à éviter un match sous la pluie, un match annulé à cause des intempéries, donc on était content de ne pas aller se mouiller samedi.
Ça c'est sûr, ça va être de vraies flaques. Corentin, on va vous retrouver évidemment dans quelques instants. Lui aussi, il est l'incontournable, l'irremplaçable, l'indispensable. Bienvenue Julien.
Ben, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous et merci. Voilà. Merci pour cet accueil.
C'est des volées de compliments comme ça, on apprécie. Et puis il y a Erwan, bonjour Erwan.
Je m'attendais à celui-là. Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, super week-end de sport, on a alterné entre sport de combat, ouais. F1, rugby, foot, voilà. Tout s'est bien passé.
Et ben voilà. Peut-être que je vais vous surprendre avec les notifs qui vont tomber aujourd'hui. Vous allez voir, on va parler de plusieurs sports.
Faites donc.
Merci Erwan de me donner votre accord. Petit retour en arrière dans cette émission sur les performances sportives, bonnes ou mauvaises, de la semaine dernière dans les tops et les flops. Nouvel entretien olympique. Nous parlerons des épreuves de gymnastique et de trampoline de ces JO 2024 avec Gaël Robert qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci pour votre accueil.
Voilà, votre première fois ici, chez nous ?
Absolument.
Voilà, donc ravi de vous accueillir.
Merci.
Voilà. Et on va parler, vous êtes responsable sportive du Coquelicot Gymnastique Toulouse. Toulouse Gymnastique.
C'est ça.
Voilà, on va vous retrouver dans quelques instants. J-36 avant, 136 avant le début des JO. Est-ce que, comme tout le monde, vous attendez ça avec impatience ?
Bien sûr.
Voilà, on en parlera évidemment. On va aussi retrouver le débat de la semaine, mais tout de suite, il est l'heure de retrouver le flash d'actualité en région avec Corinne Saint-Félix.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
En top 14, le Stade Toulousain a trouvé plus fort que lui.
Oui, pas de première place, ni même de points défensifs pour les Rouges et Noirs. Vaincus 27-17, les Toulousains n'ont pas profité de la défaite du Stade français contre La Rochelle et finissent la période des doublons par une rencontre décevante contre une équipe de l'USAP en lutte pour le maintien. Les Perpignanais confirment leur puissance à domicile après avoir vaincu La Rochelle, le Racing et maintenant le Stade Toulousain.
Le club de rugby de Blagnac en dépôt de bilan recherche 100 000 euros pour sauver ses équipes.
Après l'arrêt brutal de l'équipe masculine il y a un mois à cause d'un dépôt de bilan, le club se pose beaucoup de questions quant à la survie des deux entités restantes, l'équipe féminine et l'école de rugby. Il manquerait 1 million d'euros sur un budget total de 3 millions. Objectif maintenant, récolter 100 000 euros pour assurer la fin de saison des équipes restantes, cadettes, cadets, juniors, espoirs et réserves élite et élite 1 féminine. L'équipe féminine de Blagnac Sporting Club Rugby fait d'ailleurs les beaux jours de l'équipe de France et brille en championnat de rugby élite 1. Autre intention, celle de reconstruire financièrement et sportivement le rugby masculin pour la prochaine saison.
En handball, le Phoenix Toulouse prend son envol.
Le Phoenix Handball a imposé son rythme lors du derby contre Nîmes vendredi pour le compte de la 20e journée de Star League. Victoire 38-28, Toulouse a même mené de 14 buts d'écart. Les Toulousains confortent leur position après avoir accroché le nul contre le PSG et conservent leur position de candidat au tournoi européen. Cela fait 6 années que les Nîmois de leur côté n'avaient pas perdu au Palais des Sports.
Les Spacers ont brillé samedi contre le Plessis Robinson qui est 10e lors de la 24e journée de Spike League.
C'est la 5e victoire de rang pour l'équipe déjà qualifiée pour les playoffs. Julien Wickelmüller, Maxime Hervoir, Tom Picard et Florian Krage, l'homme du match, ont illustré un travail collectif de l'équipe contre des Franciliens. Match gagné 3-0.
Pas de succès en revanche en basketball.
Oui, les Toros, 6e, se sont inclinés 73-86 face à Mulhouse, 2e. Les joueurs se sont laissés dominer et ont redoublé de maladresse. Les stadistes ont malgré tout montré de bonnes choses, mais en toute fin de match.
Défaite aussi au Havre et fin de série pour le Toulouse Football Club.
Oui, le TFC s'est incliné 1-0 hier lors de la 25e journée de Ligue 1, une défaite qui met fin à une belle série. Le TFC a raté l'occasion de faire une bonne opération au classement et se retrouve à 4 points du premier non relégable. Une défaite qui vient mettre un terme à une belle série de 3 victoires d'affilée face à de grosses écuries du championnat, Monaco, Lille ou encore Nice pour les violets.
Merci beaucoup Corinne pour ces points sur l'actualité sportive de la région. Tout de suite, on commence par les tops et les flops, les premiers d'aujourd'hui, de ce jour.
Les tops et les flops.
Et puisqu'il se moque de moi, on va commencer par vous Erwan. Qu'est-ce qui vous a marqué ce week-end?
Vous aimez bien dire tout ce que je fais, ne pas laisser le mythe de la radio du fait que...
Fait vivre, parce qu'on n'est pas diffusé en vidéo, pas encore du moins, ça va peut-être arriver.
C'est ce qui fait un peu le charme aussi.
Oui, alors, non mais parce que vous vous moquez de moi, mais personne ne le voit. Qu'est-ce qui vous a marqué alors?
Pour les tops, je voulais parler du suspense qui est actuellement en top 14. Alors je ne sais pas si vous avez jeté un œil au classement, mais entre la 3e et la 13e place, donc 13e place c'est pour le barrage d'action, il y a seulement 10 points d'écart. Le sprint final va commencer et on peut se rendre compte qu'en fait avec une série de victoires ou de défaites, n'importe qui peut se retrouver à presque toutes les places. C'est-à-dire que La Rochelle qui est actuellement 3e, s'ils entament une série de défaites lors du sprint final, ils pourraient très bien se retrouver en course pour le maintien. Et à l'inverse, Perpignan qui ferait une série de victoires pourrait très bien se retrouver en course pour les phases finales. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et qui permet de laisser un peu le charme de cette fin de saison de top 14. Et c'est surtout quelque chose qui est inhabituel, parce que c'était jamais arrivé. Déjà depuis que le 13e est devenu barragiste et qu'il est plus directement relégué. Et même c'était plus arrivé depuis que le top 14 est passé à 14 et non plus à 16.
C'est bien, on a souvent des championnats où tout est rapidement joué. Là au rugby, on est content de voir que bah, y a un petit peu de suspense.
C'est ça. Et en plus, il y a les phases finales qui vont relancer encore ce suspense comme à chaque fois. Les phases finales de Coupe d'Europe. Enfin bref, vous inquiétez pas, même si bientôt on laisse le 15 de France, il y aura quoi faire niveau rugby.
Il y aura de quoi faire. Et votre flop, parce que c'est du rugby aussi.
Ah non, mon flop, c'est les sports de combat. Alors, je ne suis pas un grand amateur de sports de combat. Je regarde de temps en temps, surtout plus de la boxe anglaise. Mais là, je me suis retrouvé à regarder pas mal de combats de MMA depuis jeudi dernier. Parce que notamment, jeudi, il y a eu un combat qui était très attendu, surtout très médiatisé, que plus avec un réel enjeu ou un haut niveau sportif. C'était le combat entre Baki. Je ne me ferai pas l'effort de décorcher son nom et prénom. Voilà. Mais qui est surnommé Baki par tout le monde dans la sphère des sports de combat, et Cédric Doumbé, qui était donc un ancien champion de boxe thaï, qui s'est reconverti au MMA, et qui participe...
De kickboxing aussi.
De kickboxing. Et qui participe donc à la PFL, qui est une institution, un promoteur, on pourrait dire, de combat de MMA, qui est similaire, vous connaissez peut-être l'UFC, qui est le promoteur historique de combat de MMA, et la PFL, c'est un de ses concurrents. Et bien, le flop, c'est l'amateurisme de ce PFL, parce que, notamment, si vous avez vu ce main event, comme on dit, donc le combat principal entre Cédric Doumbé et Baki, il a été interrompu parce que un des combattants avait une écharde dans le pied. Et le combat s'est arrêté, voilà, parce que donc on se dit c'est des personnes qui se frappent pendant 15 minutes minimum, parce que là le combat est en 3 rounds de 5 minutes. Donc ce sont des personnes qui vont se taper pendant 15 minutes, mais on arrête un combat parce que l'un des combattants a une écharde dans le pied. Ça paraît quand même assez ridicule, et il n'y a pas que ça qui a dérangé sur tous les combats. Et comme vous le savez peut-être si vous intéressez au sport de combat, quand il y a un main event, donc un combat principal, il y a plein de combats qui ont lieu avant. Ça peut avoir eu lieu jusqu'à une dizaine, voire une douzaine de combats. Et là, il se trouve qu'apparemment, personne n'était quasiment dans la salle pour les combats précédents, parce qu'en fait, la PFL avait fait très peu de communication sur les combats qui avaient lieu à côté. Du coup, tout le monde est venu dans la salle uniquement à la fin. Il y a eu des combats qui ont été faits devant quelques milliers de spectateurs, alors que ça se faisait à l'Accor Hotel Arena, qui est donc le Bercy, une salle de 15 000 personnes. Il y a des personnes qui pouvaient rentrer dans la cage, donc sur l'équivalent du ring pour la boxe, dans la cage entre les combats. C'est quand même étrange de pouvoir laisser passer. C'est comme si on laissait à la mi-temps les personnes des tribunes descendre sur le terrain de foot. Et il y a eu plein de problèmes au niveau de la gestion des combattants qui se sont plaints, des arbitres qui n'étaient pas forcément à l'aise ou, on va dire, extrêmement compétents. Et il y a eu un matchmaking vraiment étrange. Je crois que sur la douzaine de combats, il y a plus de la moitié qui sont terminés en un seul round, avec vraiment des grosses différences de niveau entre les adversaires. Donc voilà, c'est triste de se dire qu'une organisation a voulu faire un événement en France, parce que oui, l'événement avait lieu en France, et qu'elle n'a pas été capable de le faire monter à sa juste valeur.
Une sorte d'amateurisme, peut-être.
Ouais, on pourrait dire ça, amateurisme. Il y a plein de gens qui ont utilisé ce mot-là. Après, c'est peut-être un peu cruel, mais en tout cas, oui, il y a de vrais gros problèmes d'organisation sur ce genre d'événement, et c'est triste parce qu'on n'a pas beaucoup d'événements de cette ampleur-là dans le monde des sports de combat en France.
Ça sera une affaire à suivre, évidemment, pour voir s'il y a un petit peu plus de professionnalisation. Et on le verra dans les actus, qu'il y a un Toulousain qui a performé. Je vous en parle un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Erwan. Corentin, vous, qui avez pu passer, du coup, un week-end au chaud, à la maison, qu'est-ce qui vous a marqué ?
Oui, un week-end au chaud, mais on va quand même parler d'abord de ce qui s'est passé cette semaine avec du coup du foot, avec les trois clubs français qui étaient engagés en Coupe d'Europe, donc le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille en Europa League et puis le LOSC, donc Lille, en Ligue Europa Conférence. Les trois clubs se sont imposés, donc le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions et les deux autres équipes jouaient un match aller, donc un huitième de finale pour se qualifier donc en quart. Le retour sera cette semaine. Et donc trois matchs, trois victoires, et ça fait très longtemps que c'est pas arrivé à trois clubs français. Alors j'espère ne pas porter la guigne à nos équipes avec ce top, mais en tout cas,
ça, Marseille s'est imposé.
on verra la semaine prochaine si j'ai porté chance ou pas, mais voilà, Marseille a gagné 4-0 face à Villarreal et Lille s'est imposé aussi 2-0 de son côté. Et c'est surtout que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu trois clubs français en quart de finale de Coupe d'Europe, et pourquoi pas avoir une équipe en quart de chaque compétition européenne. Et on l'espère, on croise les doigts pour nos clubs français aller le plus loin possible, ce qui nous permettrait aussi de ramasser quelques points pour l'indice UEFA, ça fait toujours plaisir. Et puis pour le flop, on va parler de sport de combat, mais cette fois on va parler de boxe anglaise, avec le combat qui était attendu entre Francis Ngannou, le Camerounais, et Anthony Joshua, l'Anglais. Et Francis Ngannou s'est heurté à un mur pour son deuxième match, donc dans la catégorie reine. La marche était peut-être trop haute pour lui, et surtout face à un adversaire qui était vraiment mort de faim, qui avait enchaîné les contre-performances et qui avait besoin de prouver, besoin de retrouver de la confiance. Alors est-ce que Ngannou était vraiment pas en forme, mental défaillant, j'en sais rien, mais c'est pas lui que je veux mettre en flop, c'est plutôt les réactions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Alors certains peut-être connaisseurs, d'autres non, mais en tout cas, voilà, avoir des propos très durs, notamment sur le niveau d'Ngannou, expliquant qu'il était moins que rien ou qu'il n'avait pas forcément sa place sur un ring. Faut quand même rappeler que quelques mois auparavant, il avait perdu au point face à Tyson Fury, le Gypsy King, qui est peut-être l'un des meilleurs boxeurs de sa génération. Score du match 92 à 91 ou 93 à 92. Un score qui était surtout là pour permettre à la boxe anglaise de garder la face alors que Francis Ngannou faisait son premier match. Donc voilà, juste mettre un petit peu de respect sur le nom de cet athlète et de ce sportif. Il y a quand même un palmarès dingue et voilà, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur les réseaux sociaux, mais pas grand monde irait lui dire en face, droit dans les yeux, Ngannou, qu'il est finito et qu'il n'a pas sa place sur un ring, à mon avis.
Ouais, alors, pour petit titre, petite valeur proportionnelle, prendre une droite de Francis Ngannou se résume à prendre une petite citadine en plein visage. Voilà, ça a été mesuré. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup qui irait lui dire, parce que prendre une voiture dans la tête, c'est généralement pas agréable.
Non, ça va, on s'en passera, je pense.
Oui, on s'en passera, évidemment. Vous savez, le courage sur les réseaux sociaux, c'est forcément très limité. Merci beaucoup, Corentin. Ou le flop, c'est un peu terminé en coup de gueule, mais vous avez eu raison. Julien, on enchaîne. Qu'est-ce qui vous a marqué à vous ?
Alors, moi, en flop, j'ai décidé de mettre nos meilleurs ennemis de toujours, l'Angleterre, donc sur ce fabuleux week-end rugby. En top, oui, parce que j'ai dit en top. Ah, j'ai dit en flop, excusez-moi, en top.
Ouais, attention, Erwan veille au gré, hein. Vous avez vu, c'est la sentinelle.
Oui. Donc j'étais agréablement surpris par ces Anglais qui ont battu l'Irlande, qui est peut-être la meilleure équipe du monde actuellement, même si ça ne s'est pas reflété à la Coupe du Monde. Mais voilà, donc ils sont imposés à la dernière seconde sur un drop de Marcus Smith plein de sang-froid. Et ben donc cette équipe anglaise a surpris son monde, parce que quand on voit, cette équipe est capable du meilleur comme du pire, quand on les a vus le week-end dernier contre l'Écosse. Alors c'était un festival de maladresse, une défaite plus que méritée, et là justement les Anglais ont complètement agressé les Irlandais qui n'ont rien pu faire. Et puis le score est peut-être léger, mais le score aurait pu être beaucoup plus large en faveur des Anglais si par exemple George Ford n'avait pas raté ces deux drops qui font pourtant sa spécialité, comme deux transformations et une pénalité. Donc voilà, bah, je voulais tirer mon chapeau à ces Anglais, mais en espérant qu'ils aient pas la même réussite contre nous le
week-end
prochain.
Voilà, c'est pour ça. Surtout. Chapeau, mais pas trop. Voilà. Parce qu'on les prend à la fin de la semaine, donc...
On va éviter un tel dénouement.
C'est ça. Et votre flop, du coup ?
Et mon flop, j'ai décidé de mettre le TFC, Toulouse. Parce que voilà, pour rebondir un petit peu sur notre débat. De la semaine dernière, voilà, donc si Toulouse pouvait titiller les places européennes la semaine prochaine, forcé de constater que...
ils ont une excuse, c'était pas à domicile.
Oui, certes. Mais bon, en face, c'était quand même le Havre qui a resté, il me semble, sur 7 matchs sans victoire. Ils avaient marqué, je crois, qu'un but sur leurs 5 derniers matchs. Enfin, offensivement, c'était le néant. Et là, contre Toulouse, on les a vus. Dès le début du match, c'était une autre équipe. Toulouse qui n'a pas été capable de cadrer un tir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus ça. Et surtout, le Havre, il y a eu 1-0 au final. Mais s'il y avait pu avoir 3-0, ça n'aurait pas été choquant. Aïe. Et puis maintenant qu'on voit, ils sont à 4 points, comme on en parlait, de la zone de relégation. Donc maintenant, on peut dire qu'ils sont plus proches de titiller la relégation plutôt que les places européennes, malheureusement. Bon, en espérant
que ça se passe mieux.
Exactement.
Oui, mais il me semble qu'ils prennent des grosses équipes là bientôt.
Y a encore le PSG, il y a encore, encore du beau monde.
Ça sera... l'attention sera toute mise sur les violets qui, on l'espère, vont rester en Ligue 1 l'année prochaine. Comme vous l'avez dit, même si Metz et Clermont ont l'air assez mal partis pour la course au maintien et surtout pour les barrages. Merci Julien, merci Erwan, merci Corentin pour ses tops et ses flops. Évidemment, on va retrouver les notifications dans quelques minutes. Vous allez voir, on va avoir quelques échos de ce qui vient de se dire. Mais tout de suite, il est l'heure du face-à-face.
Esprit Sport, le face-à-face.
Et pour le face-à-face, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de rebond sur ce qui va se passer. Gaël Robert, vous êtes responsable au sein du Coquelicot Gymnastique Toulouse. Merci d'être avec nous ce soir. Ah, attendez, si je vous allume pas le micro. Si je vous allume pas le micro, ça va être compliqué. Voilà, on va parler de votre club, de votre discipline, la gymnastique et le trampoline. Alors, on va de suite parler du trampoline. On sait que c'est quelque chose de plutôt loisir qu'on fait dans le jardin quand il fait beau. Mais je parle à ceux qui nous écoutent. Si vous ne le saviez pas, il y a aussi des clubs proches de chez nous. Est-ce que vous pouvez, Gaël Robert, nous parler un petit peu de votre club et de cette discipline ?
Oui, bien sûr. Alors, notre club, donc, c'est le Coquelicot Toulouse Gym. Donc, on a... notre siège du club en centre-ville et on intervient sur plusieurs zones de la ville de Toulouse puisque on représente à peu près toutes les disciplines de la gymnastique, à savoir que pour un club donc de 1200 adhérents, nous avons de la gymnastique rythmique, de la gymnastique artistique masculine, de la gymnastique artistique féminine, du trampoline, du tumbling, de la gymnastique acrobatique, de la petite enfance, des seniors. Donc, on a plusieurs sites de pratique, à Nakache, à Saint-Cernin et au COSEC de Rangueil.
Toutes les sortes de gym. À partir de quel âge on peut commencer la gym en général ? Parce qu'on sait qu'on en fait à l'école. Alors, je ne sais pas si on en fait toujours, mais il me semble qu'on en fait encore à l'école.
Oui.
On en fait toujours ?
Ouais, on en fait toujours.
C'est bien parce qu'il y a tous les sports, on n'en fait pas tout le temps à l'école. Là, on en fait. À partir de quel âge on peut commencer la gym ?
Alors, nous, on accueille les enfants, attention, à partir de 15 mois. C'est de la petite enfance.
Là, c'est un an et trois mois.
C'est ça.
C'est peu.
Ouais.
C'est pour... Merci, Erwan. Un grand pouce. Vous avez vu, j'ai appris à compter ce week-end.
Alors, évidemment, à cet âge-là, ce sont juste des parcours de motricité, de découverte des appuis, de la suspension, rouler en avant, en arrière, sur les côtés. Voilà, un peu...
Ce qui doit beaucoup les amuser.
Oui, énormément. Surtout que, voilà, on a tout ce qu'il faut au club, en tout cas au niveau matériel. Les plus chanceux peuvent aussi déjà commencer à aller rebondir sur le trampoline. Donc voilà, c'est les plus petits et ça va jusqu'au senior. Donc là, il n'y a pas vraiment de limite d'âge à partir du moment où on peut bouger un petit peu.
Voilà, ça demande beaucoup de souplesse, on va dire. Alors, on va voir que c'est bien au-delà de sauter sur un trampoline dans son jardin. On va parler de cette spécificité puisqu'on va retrouver le trampoline au JO. Trampoline qu'on retrouve au JO depuis 2000, il me semble.
Ouais.
Donc... c'est pas une nouveauté, on savait qu'on allait avoir les JO. Rapidement, qu'est-ce que vous attendez de ces épreuves olympiques pour votre club ou pour le trampoline en général en France ?
Alors, au niveau du club, on n'est pas concernée pour le moment. Mais au niveau français, en tout cas, on a des chances de médailles. Tout comme il y a 4 ans, avec, surtout chez les garçons. Mais la course à la qualification n'est pas encore terminée. On n'a pas encore les noms de ceux qui vont nous représenter à Paris cet été. Bon, il y a des noms qui se détachent avec chez les filles Léa Labrousse et chez les garçons, ça se joue entre Alan Morante, Pierre Gouzou et Julien Chartier. Pour la petite anecdote, Pierre Gouzou a fait ses débuts au CTJ avec moi.
Voilà, nos régions ont du talent. Voilà. Comme quoi, petite fierté s'il y est et s'il ramène une médaille.
Absolument.
Bah écoutez,
déjà, rien que d'y participer, ce serait incroyable. Un beau rêve de réaliser puisqu'il en parlait déjà depuis tout petit.
Ah, de se dire qu'il a commencé chez vous et qu'on le retrouve au JO, oui. Avec peut-être une médaille, on l'espère, même une participation, c'est incroyable.
Ah, ce serait magique.
Ça serait vraiment, puis en plus, ça ferait de vous un club formateur d'Olympien.
Oui, enfin, il est parti il y a quelques temps déjà, hein, mais en tout cas, ça a été un plaisir de le former à la base.
Corentin, le trampoline, vous avez une question ?
Oui, justement, puisque vous avez commencé à parler des Jeux Olympiques, comment se passe le parcours d'un athlète pour se qualifier ?
Alors, c'est un parcours semé d'embûches. Alors, il y a deux possibilités, en fait. Soit ils sont finalistes sur les championnats du monde, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans les 8 meilleurs mondiaux. Et dans ce cas-là, ils gagnent un quota pour la nation. Et après, c'est à chaque nation de déterminer qui va participer à ces Jeux Olympiques. Soit par le circuit Coupe du Monde, où là, donc, il y a 6 Coupes du Monde. Où à l'issue du classement, chaque athlète qui participe récolte des points. Et après, il y a un classement mondial qui se fait en fonction des résultats sur les 6 Coupes du Monde. Voilà. Et là, par contre, c'est nominatif.
Ah d'accord, c'est plus cet aspect de pays, ouais. Où, d'accord, c'est des athlètes qui représentent un pays.
Voilà.
D'accord, très bien.
Et après, bon, bah, comme on est club organisateur, on a toujours la wildcard qui peut être accordée à soit une fille, soit un garçon, en fonction de si les gens ne se qualifient pas.
Donc on est sûr d'être représenté au JO.
Voilà.
Parce qu'on est un pays organisateur des JO, donc voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Absolument.
Voilà, en espérant que ce soit le petit Toulousain qui soit qualifié, évidemment, enfin qu'il ne l'est plus d'ailleurs, mais bon, il est passé par chez vous et c'est déjà plutôt bien. On va zoomer de nouveau sur votre club, on a parlé un petit peu des JO, on a des chances de médailles, donc on va suivre ça évidemment avec passion. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a amené au trampoline et à la gym ?
Alors moi, j'ai commencé par la gym...
À 15 mois ?
Non, pas à 15 mois, mais j'ai commencé plutôt tard la gym puisque j'ai commencé à 8 ans et... Même si ça paraît tout jeune pour une carrière de gymnaste, c'est assez tard. J'ai fait 8 ans de gym et puis j'ai découvert le trampoline. Bon, alors, il y en avait un dans mon club de gym. Pour nous, c'était le jouer. En fait, c'est quand on avait un petit peu de temps libre, on allait jouer sur le trampoline. Et puis, en fait, il y a des athlètes qui s'y sont mis à le pratiquer en compétition. Et puis, une année, bah, j'avais décidé d'arrêter la gym. Mon corps ne suivait plus trop. Et c'est le président du club qui m'a proposé d'intégrer la section trampoline. Et puis, j'ai tout de suite adhéré aux sensations, vraiment la voler, rebondir, piloter son corps. Puisqu'il faut savoir que le trampoline est quand même principalement régi par la biomécanique. C'est-à-dire que bah, chaque mouvement du corps crée... du mouvement derrière avec une rotation, que ce soit longitudinale ou transversale. Je parle peut-être un peu en chinois, c'est un peu technique,
non,
mais
transversale...
en gros des saltos ou des vrilles. Ah. Voilà.
Les dimensions du trampoline ?
Alors la toile fait 4 mètres sur 2.
Donc voilà, on risque pas de tomber à côté.
Oh si.
Ça vous est déjà arrivé ?
Ah, ça arrive souvent.
Aïe.
Erwan, bah, plus on va haut, plus la moindre erreur conduit
à... On saute à combien de hauteur à peu près quand on est débutant ?
Oh, alors débutant, pas très haut. Si on est à 1, 2 mètres, c'est déjà pas mal. Mais les meilleurs vont jusqu'à 7 mètres.
7 mètres d'eau ?
Ouais.
Je vois Erwan faire les grands yeux. Du coup, vous, après le triathlon la semaine dernière, le trampoline, ça vous plaît pas.
On attend qu'ils viennent pour s'accrocher aux poutres.
Ah, vous avez vu tous les gens qu'on reçoit.
Je vous avoue que ça va être
voilà,
compliqué,
c'est 7 mètres.
Bon, c'est l'occasion de vaincre sa peur. Hein.
Ah, bah écoutez, tous les gens qu'on reçoit dans l'émission, et on les remercie tous, et on vous remercie, Gaël Robert, d'être là ce soir, vous propose de venir faire un essai, Rouen. Vous avez vu quand même.
Il nous propose à nous.
À nous, oui.
Vous
oui.
voulez voir d'abord si je survie avant de venir prendre.
Ah, vous êtes les bienvenus. Hein.
Ah, ben
voilà. C'est un beau sport et je me demandais comment ça se passe du coup les circuits. Vous parlez de 6 Coupes du Monde, c'est 6 Coupes du Monde en une année, c'est des circuits mondiaux, comment ça se
ouais,
passe?
Oui, c'est ça. C'est, ça a commencé cet été en juillet. Alors, je ne peux pas vous redonner les dates en gros. Il y en a une en juillet, une en août, puis ça s'est étalé un peu en octobre, etc. Et là, donc, la prochaine est en Allemagne à Cottbus. Et voilà, donc après, ben, c'est la fédération quand même qui décide qui va sur ces Coupes du Monde. Et puis voilà, après, donc, comment se déroule une Coupe du Monde? Alors en fait, il y a des qualifications. Donc là, tout le monde passe et tout le monde fait 2 passages. Un enchaînement trampoline, c'est 10 figures, c'est-à-dire 10 touches de toile, avec des figures acrobatiques. Et la petite subtilité, c'est qu'on n'a pas le droit de faire 2 fois la même figure dans l'enchaînement. Voilà, donc ça oblige à avoir un répertoire acrobatique plutôt large pour ne pas reproduire la figure plusieurs fois dans son mouvement. Donc là, à l'issue des qualifications, donc ils font 2 mouvements, ils prennent le meilleur des 2. Si ils sont dans les 24 premiers, ils font la demi-finale. Alors, ils appellent ça Q2, mais c'est l'équivalent d'une demi-finale. Et les 8 meilleurs entrent en finale. Voilà. Et là, ils présentent un seul mouvement, que ce soit en demi-finale ou en finale, un seul mouvement, et puis ben là, c'est le meilleur.
Il faut vraiment assurer les mouvements qu'on va présenter, quoi.
C'est oui, vraiment, et puis il faut les assurer maîtriser, sur la durée aussi. Puisque...
Il n'y a pas cette peur de maîtriser un mouvement à la perfection, mais au moment où on va le faire, ce moment où on le perd ou on le rate alors qu'on l'a jamais raté.
Ça arrive toujours.
Ouais, cette
ça
appréhension,
arrive à tout le monde.
Il y a un gros aspect mental aussi.
Ouais, quel que soit le niveau, il y a ça. Il faut savoir que, en tout cas, à mon avis, à ce niveau de compétition et même avant, hein, au niveau national, ça suffit. La performance en compétition, c'est 80% de mental.
Donc oui, il y a un vrai aspect mental à travailler. Corentin ?
Oui, vous aviez évoqué tout à l'heure un peu l'aspect sollicitant que pouvait avoir la gymnastique. Alors moi, j'aurais aimé savoir justement, plus spécifiquement sur le trampoline, quelles sont les blessures les plus fréquentes, j'imagine quand même au niveau des articulations, et justement comment les athlètes font essayer de récupérer ou sont en marche vers la réathlétisation lorsqu'ils subissent une blessure plus ou moins grave.
Alors, les douleurs les plus récurrentes, je dirais, sans aller jusqu'à la blessure, c'est le dos. Puisqu'il faut savoir que les meilleurs prennent 10 G en fond de toile, à savoir 10 fois leur poids.
Ah oui.
Donc, c'est assez traumatisant au niveau du dos, bien souvent. Puis, le corps se retrouve en pression, en torsion, en fond de toile. Et du coup, ça oblige à avoir une préparation physique irréprochable. Irréprochable, pardon. Pour éviter cette blessure, justement. Ensuite, on retrouve les blessures, je ne veux pas dire bêtes, mais classiques, les entorses, chevilles, oui. Genoux, des ligaments croisés. C'est un peu le mal de tous les sportifs de haut niveau, je pense que quel que soit
ouais,
la
le bas du corps, c'est
un peu ce qu'on retrouve partout. Après, il n'y a pas de blessures spécifiques au trampoline, quoi. C'est vraiment juste ces douleurs de dos, souvent, qui sont récurrentes et qui peuvent mettre fin à une carrière.
Directement, on voit aux anneaux. On a un Français aussi qui s'est fait le tibia. Il me semble qu'il s'est
oui.
cassé le tibia, fracture
oui,
ouverte.
Tibia péroné, ouais, voilà. Fracture ouverte, tibia péroné.
Et il s'en est remis. Et alors, je crois qu'il va être au JO. Bon, faut voir s'il est qualifié. Mais voilà, comme quoi, une belle preuve de résilience et de réhabilitation, ce qui est un parcours exceptionnel. On va en parler un jour, ça c'est sûr, à l'approche de ces JO. Pour en revenir à votre club, combien on compte de licenciés à peu près pour
1200.
Précis, 1200.
Non, non.
Des plus
non,
jeunes
non,
ou...
Pas précis, c'est approximativement 1200.
Uniquement pour votre club, donc dans les autres clubs ou en région ou même en France, on compte beaucoup de licenciés même.
Mm. C'est beaucoup de licenciés.
C'est beaucoup de licenciés.
Là, on est le deuxième club d'Occitanie.
Ah oui.
Derrière.
Félicitations.
Voilà, merci. Et même au niveau français, on est plutôt bien classé en termes de... Alors, je ne saurais pas vous dire le classement exact, mais on est plutôt bien classé. Et surtout, vraiment, la particularité de notre club, c'est d'être, de représenter autant de disciplines.
Oui, c'est vrai que vous représentez toutes les disciplines, donc finalement, quasiment, c'est assez, ouais. Vous avez de la chance. Pour les compétitions, le niveau de votre club, la représentation au niveau régional, départemental?
Alors, ça dépend des disciplines, mais globalement, on est représenté au niveau national. Et pour le trampoline, le tumbling et l'aérobic, que j'ai oublié de citer d'ailleurs tout à l'heure, je m'en excuse auprès de mon collègue Arthur. On a donc des filles qui sont en aérobic, qui sont au Pôle France, ce qui est, parce que le Pôle France est au Krebs, à Toulouse. Voilà, donc on a les 5 filles qui nous représentent au plus haut niveau, avec d'ailleurs récemment des médailles européennes. On s'en félicite aussi, on est très fiers d'elles. Et au niveau du tumbling, on a Quentin Blasco qui nous a représenté en novembre dernier au championnat du monde par groupe d'âge. Et en trampoline, puisque... on a eu très régulièrement des représentations au niveau des championnats du monde pour les jeunes. Et pour le dernier, c'est Baptiste Leroux qui est actuellement membre du collectif France et qui est titulaire du pôle de Rennes, du pôle France de Rennes.
Ah oui, donc un club qui au niveau français est quand même assez bien représenté. Vous êtes là?
Oui.
Depuis 1911, je viens de retrouver la date, le club fondé en 1911. Donc plus de 100 ans.
C'est ça.
Voilà, donc un club qui compte dans le paysage français. Cette année, il y a eu quelques compétitions récemment. Ce qui arrive là, les prochaines échéances, qu'est-ce qui va se passer pour vous?
Alors là, quelle que soit la discipline, on est tous en phase de qualification pour les championnats de France. Alors en fonction des disciplines, à plusieurs échelles, certains en sont encore au département, d'autres déjà à la région. Nous, au niveau du trampoline... on vient d'effectuer ce week-end notre troisième sélectif pour le championnat de France. Il en reste une au mois d'avril. Puis les masters, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une Coupe de France réservée aux élites. Et le championnat de France qui aura lieu le 8 et 9 juin à Toulon.
Ça vous fait beaucoup voyager, tout ça, beaucoup faire de trajets. Comment est pris en charge les déplacements, l'aspect un peu compliqué, évidemment, toute l'organisation pour accueillir aussi des compétitions, comment ça se passe? Est-ce que les licences suffisent à tout ça?
Non, alors au niveau des déplacements à l'extérieur, donc je gère la logistique, c'est-à-dire que je réserve tout ce qui est hôtel, les déplacements... les repas, on réserve, voilà. Et le club peut prendre en charge tout ce qui est l'encadrement, c'est-à-dire les juges, puisqu'on doit fournir des juges en compétition, les entraîneurs, et puis les athlètes, par contre, malheureusement, c'est à la charge des parents, puisqu'on a trop d'athlètes représentés en compétition.
Ah, c'est quand même un comble.
On aide au mieux sur les compétitions internationales, quand il y a des participations à des tournois internationaux, etc. Mais au niveau national, ça représente trop de gymnastes pour que le club puisse assumer ce genre de dépenses.
Pour quelqu'un qui veut essayer de venir dans votre club en loisir, qu'est-ce que vous pouvez lui dire à la personne qui hésite de faire ce pas pour venir dans la salle?
Il faut venir, c'est super fun.
Ah, vous avez vu Erwan? Il faut venir, c'est super fun. Je vais pas vous lâcher. où est-ce qu'on peut vous retrouver? Un site internet, des réseaux sociaux?
Oui, bien sûr. Alors, on est sur les réseaux Facebook, Instagram, essentiellement. Et le site du club, donc www.ctgym.fr. Un numéro de téléphone classique que vous trouverez sur le site. Et puis sinon, il faut venir nous rencontrer directement dans les gymnases.
Voilà, n'hésitez pas vraiment à franchir ce pas. Vous avez vu, ça donne envie au final, puisque ce n'est pas que simplement sauter sur un trampoline ou faire de la gym comme on a peut-être fait à l'école. Niveau souplesse, c'est une qualité obligatoire pour commencer ou est-ce que ça va venir en pratiquant?
Le trampoline?
Le trampoline, la gym, ce que vous proposez dans votre club?
Alors évidemment, si on parle de gymnastique rythmique, on va dire que la souplesse est...
Voilà, donc ça déjà on oublie.
Obligatoire, voilà. Après, en trampoline par exemple, non. Pour débuter en tout cas, pas besoin d'une grande souplesse. Évidemment, après, si on rentre sur un circuit compétitif et qu'on a des ambitions, là, le minimum.
Le minimum sera demandé. Bien, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaëlle Robert. Je le rappelle, vous êtes responsable du sport au Coquelicot Gymnastique Toulouse. Et on redonne l'adresse du club www.ctgym.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Merci à vous.
Dans quelques instants, on va débattre sur le 15 de France et cette belle victoire face au Pays de Galles. On va aussi retrouver les notifications qui vont tomber et ce qui s'est passé. Rapidement, on va l'aborder, mais tout de suite un petit voyage avec Jacques Brel du côté d'Amsterdam. C'est la version live en plus, hein. On rigole pas dans l'émission aujourd'hui.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invite à revenir en pluie, se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Voilà. Combien de secondes de blanc, Erwan? Sortez
Quelques
trop
secondes, à peine pour profiter de la musique.
Ah oui, bah, c'est la session karaoké, voilà.
Il n'y a que des versions live de Port d'Amsterdam. Oui, parce que c'est une musique qui ne chantait qu'en concert. Il n'a pas enregistré en studio.
Très bien. Ça, c'était la petite anecdote d'Erwan.
Voilà, bah, j'aime beaucoup Jacques Brel.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Je suis sûr qu'au Corentin, vous allez chanter la musique.
Ah, et je connaissais pas les paroles par cœur, donc vu que je suis quand même depuis chez moi, j'évite quand même d'infliger ça aux voisins.
Les voisins qui entendent Amsterdam à fond à côté, voilà, on les embrasse en tout cas. Tout de suite, on va retrouver les notifs. Alors, première notification, j'ai pas le petit son. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Inquiétude des athlètes, justement, on sort des JO pour y rentrer, notamment de la brésilienne Ana Marcela Cunha, qui demande au comité olympique de prévoir un plan B en cas d'impossibilité de tenir les épreuves dans la Seine, estimant qu'elle n'est pas faite pour nager et s'inquiète de la santé des athlètes. Alors, nager dans la Seine, est-ce que c'était pas trop ambitieux?
Peut-être, oui, effectivement. Je pense qu'il y a quelques fleuves ou rivières, ou même lacs, comme on l'a su la semaine dernière, ça peut se faire aussi en des lacs, qui auraient permis de faire les épreuves de triathlon. C'est un peu, ou même en eau libre ou vive, comme vous l'avez dit là.
Oui, c'est vrai.
Voilà, mais c'est dommage de ne pas avoir prévu de plan B et de risquer de faire seulement du triathlon à deux épreuves.
Le duathlon, du coup.
Duathlon, exactement.
Voilà, donc on verra, affaire à suivre. Mais maintenant, même les athlètes demandent au comité olympique d'avoir des plans B. Donc, ce qui prouve que même les athlètes commencent à être inquiets. On verra ça cet été. Islem Masraf, le Toulousain qui a mis KO son adversaire lors du PFL Paris 2, dont vous nous avez parlé, Erwan. Il a mis son adversaire KO en 10 secondes lors d'un combat. On en avait parlé lors de la chronique de Gabin il y a 3 émissions de cela, il me semble, et du coup on a eu le résultat, KO en 10 secondes, un adversaire un petit peu plus compliqué, voilà, il voulait pas trop être là, il était là, il a pris son pied dans le front, il est parti en civière en 10 secondes, voilà, c'est bien pour le MMA toulousain, on va dire, après les sports de combat où tout le monde en a parlé dans les tops et les flops, on se dit que c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle, après ça, comme on dit, ça fait partie de ces combats qui étaient peut-être... pas forcément le match ou le matchmaking n'était peut-être pas forcément le mieux. Après, bon, bah écoutez, pour le sport de combat toulousain, on prend. Puis en espérant juste avoir un peu plus de résistance la prochaine fois pour avoir un combat toujours gagné, hein, on l'espère, mais peut-être un peu plus sympathique.
En plus, il avait vraiment pas envie d'être là, ça se voit, c'était assez, assez impressionnant.
Mais pour savoir, il y avait une explication autour de ça, justement, c'est sa méthode. Justement, il fait tout le temps ça. Et tout le temps ça, c'est peut-être pour déstabiliser l'adversaire.
Oh bon. Ça l'a tellement déstabilisé qu'en 10 secondes, il n'était plus là.
C'est pour ça. Maintenant, lui et son coach, ils reverront leur stratégie, je pense. Hein.
Ouais, c'est bien. C'est, voilà, comme quoi, toutes les techniques, toutes les méthodes pour commencer un combat ne sont pas forcément bonnes. Et attention, voilà, je l'ai retrouvé. Ça, c'est une actu.
Bon.
Merci. Wow, c'est réalisation à l'américaine, vous le savez. La Marseillaise qui résonne en FM. Alors, grâce à Dorian Pain, qui a remporté les deux courses de F1 Academy avant les pénalités. Alors, la F1 Academy, c'est de la F1 avec que des pilotes féminins. Voilà. Et c'est avec des F4. Donc, c'est pas vraiment les F1 qu'on voit souvent à la télé ou dont on entend parler. Une pilote à suivre, car elle risque cette année d'écraser la concurrence. Un petit peu comme le Hollandais roulant, voilà, qu'on entend parler tous les week-ends et que Corentin apprécie évidemment. Donc, c'est plutôt bien de voir qu'une pilote française, comme Michel Mouton à son époque, va sûrement dominer sa discipline. Et ça fait plutôt plaisir d'entendre des Marseillais en course automobile. Je pense surtout à vous, Corentin.
Oui, bien sûr. C'est sûr que voilà, de voir Dorian Pain qui est en plus plébiscité aussi par les autres pilotes. Enfin, je veux dire, son talent est reconnu au-delà de la F1 Academy. Donc voilà, on lui souhaite d'avoir une saison où elle va dominer la concurrence et peut-être voilà avoir l'opportunité de pourquoi pas conduire peut-être un peu plus de Formule 1, d'avoir des essais, etc. Enfin, je pense que voilà pour elle, pour le développement du sport automobile aussi au niveau féminin, c'est important. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de réussite.
Et elle est dans le giron Mercedes, voilà, d'où sort un grand champion du monde, donc ce sera à suivre, et peut-être qu'on la verra au volant d'une course avec des hommes pour un petit peu enlever ce mode 100% masculin. Voilà, c'est tout pour les actus, il y en aura plus peut-être la semaine prochaine, on verra pas. Vous savez, les actus, et ce moment chronique, il est toujours à travailler.
Mais il est très bien, Jonathan.
On le prend comme il vient. Voilà,
il est très bien de vous.
Voilà, Erwan, je le tacle dans les lancements, mais il est toujours là, toujours bien gentil. Merci Erwan.
Avec plaisir.
Tout de suite, on va débattre, évidemment. Ça, c'est pas le bon jingle, vivement que Corinne revienne. Hein, vous avez vu Corinne, qu'on embrasse évidemment, et qui s'occupe de la réalisation. On retente.
Qui nous a dit qu'elle avait beaucoup chanté pendant la musique de Jacques Brel.
Ah oui, j'ai pas lu, j'étais pas sur mon téléphone. Regardez, on va réessayer. Voilà, le débat. Avons-nous retrouvé le 15 de France, notre 15 de France, celui qu'on aime voir, surtout gagner d'ailleurs, et surtout bien jouer. Est-ce qu'on les a retrouvés, nos bleus, de ce 15 de France?
Oui.
Super, fin du débat, merci.
Voilà, oui, fin.
Julien, ouais. Vous en pensez quoi?
Alors, oui
non.
Et non.
Allez, bah, voilà, super, merci. Corentin.
Moi, je dirais non.
Voilà, tour de plateau, merci, fin d'émission.
Non, vous ne gagnez pas, d'habitude, on est souvent tous d'accord.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Il y a un spectre très large.
Spectre très large. Eh ben, allez-y, débattez, battez-vous.
Donc bah je vais commencer. Moi, je pense que, comme il le dit souvent les coachs, il faut prendre match après match. Je pense que voilà, une ère, parce que c'est une nouvelle ère, c'est l'ère Galtier 2 théoriquement. Il faut prendre voilà tout ce qui arrive. Et là, ça a été un match qui a pas été totalement facile. Le score est, enjolive beaucoup la situation. On a quand même souvent buté contre le Pays de Galles. On a eu cette impression un peu comme ce que a livré Toulon contre le Racing, si jamais vous avez jeté un œil au top 14, qu'on aurait beau attaquer, on n'arriverait jamais à marquer en seconde période, avant l'essai de Georges-Henri Colombe, qui a fait d'ailleurs une très très bonne entrée. De manière générale, les finisseurs ont été très bons. Et après, voilà, ça a déroulé. Du coup, moi, je pense quand même qu'il faut être satisfait de cette victoire, parce que ce qui compte, c'est le score final. La manière n'a pas été suffisamment déplaisante pour qu'on puisse, je pense, la critiquer. Il y a eu beaucoup, surtout défensivement, il y a une très très grosse qualité défensive avec 90 ou 91% de mémoire de plaquage réussi.
Gaël Ficou qui a réussi tous ses plaquages.
14 plaquages et qui a été en plus le meilleur plaqueur côté français.
Ça, ça a noté.
Voilà, il y a eu beaucoup de bons plaquages offensifs. Par contre, il y a eu encore toujours le même problème sur l'organisation défensive parce qu'il y a deux essais gallois. Sur les trois, il me semble qu'il y a trois essais gallois, il y a deux essais gallois où c'est vraiment une des grosses fautes d'organisation défensive. Et notamment le tout premier, donc celui de Rio d'ailleurs, où Charles Olivon monte beaucoup trop vite après un plaquage offensif de Julien Marchand en espérant récupérer le ballon, sauf que ça se voit que malheureusement, sauf s'il a la vitesse de Sonic, il n'arriverait pas à le récupérer. Et donc voilà, il laisse passer Rio d'ailleurs parce qu'il y a un énorme trou. Là, je vous avoue que quand je l'ai vu monter comme ça, je me suis rappelé les quelques fois où voilà, quand je fais du rugby à 7 l'été, que je m'amuse à monter très vite sur le premier joueur et que je me fais avoir parce qu'il me prend après dans le dos.
Voilà. Voilà. Et Ron en rugby à 7. Un petit peu à l'image d'Antoine Dupont finalement. C'est vous qui l'avez initié.
J'irai pas jusque-là.
Julien, vous étiez un petit peu plus mitigé.
Je vais plutôt reprendre beaucoup d'arguments d'Erwan. Donc je suis un peu d'accord, même complètement d'accord que ce résultat large.
Il vous a fait changer d'avis, Erwan ?
Non, toujours pas. Il n'y arrive jamais. Mais c'est vrai que ce résultat, quand même, il est très flatteur, je trouve. Parce que quand même, pendant 50 minutes, 55 minutes, on a été bousculé. Défensivement, c'est vrai que les statistiques plaident en notre faveur. Mais comme il expliquait très bien Erwan, il y avait beaucoup de désorganisation derrière, beaucoup de largesse. On laissait pas mal d'espace. Alors oui, on réussissait nos plaquages peut-être, mais on laissait beaucoup trop d'espace. Et on s'est fait peur jusqu'à... Enfin, honnêtement, moi je me suis dit, on se dirige vers une autre défaite. Après... Là où je vais dire oui, on l'a un peu retrouvé, c'est que voilà, sous le mandat Galtier depuis le début, nos finisseurs finissaient bien. Et là, ils l'ont prouvé parce que dès qu'ils sont rentrés, dès que le 109 est rentré, la jeunesse est rentrée, tout simplement, on les a détruits. Donc là, oui, on a retrouvé ce 15 de France. Mais encore une fois, je trouve qu'il manque, on manque encore de sérénité, de confiance.
La chistera de Le Garec, là, elle était incroyable. La sérénité quand même pour le faire.
C'était sa première, donc c'était il a peut-être pas la même pression que tout le monde. Voilà, il a pas ce traumatisme qu'ont les autres aussi.
Qui a été l'homme du match d'ailleurs.
Oui. La fougue de la jeunesse.
Et à juste titre, voilà, la fougue de la jeunesse, exactement.
Il a dit qu'à Tarbes, et on lui disait de jouer à l'instinct, de jouer comme il le sentait. C'est pour ça qu'il a fait ça. À Vannes, il a dit.
Ah oui, parce qu'il était formé à Vannes. Je crois pas qu'il ait déjà mis un pied à Tarbes.
Oui, ça me semble bizarre aussi. Ouais, parce que le Garec, ça sonne plus breton que...
Peut-être pour le tournoi de tennis international de Tarbes.
Peut-être, les petits as. Ouais. Voilà. Non, mais... oui, c'est vrai. On entendait très mal l'interview de fin de match. Il y avait beaucoup de bruit à Cardiff. Voilà. C'est une excuse comme une autre. Vous la prenez pas, c'est pas grave.
Mais sinon, voilà, pour savoir si le 15 de France a vraiment retrouvé des couleurs, je pense qu'on le verra justement le week-end prochain.
Oui, voilà. C'est beau ça.
Je pense que c'est là où on pourra peut-être avoir la réponse.
Et le tournoi n'est toujours pas perdu. On peut peut-être le gagner.
Ouais,
oui,
ouais.
On marque 97 points d'avance sur l'Angleterre.
Ouais. Et que l'Irlande ne marque aucun pas. Point. Ne marque aucun point, bon, bref.
Ça va être compliqué.
On va pas se faire de faux espoirs, je pense.
Corentin, vous, c'est un non fermé définitif.
C'est pas un nom fermé définitif, vous allez voir, je vais prendre un petit peu mes lunettes de paintball et me mettre façon Galtier, philosopher un petit peu. Je vais dire que cette équipe de France...
Alors faites pas des réponses en 9 minutes, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas le temps là.
Non, je vais faire rapide, j'arrive à quand même être efficace quand je parle quand même. Mais oui, je pense que c'est une équipe qui est différente en termes de jeu en fait. Erwan a parlé de cycle ou de mandat ou d'air. Je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'équipe de France qu'on a connue, à mon avis, elle est en train d'évoluer. Je pense que le staff est en train d'accepter cette évolution, cette mutation que doit avoir le groupe, le style de jeu peut-être, l'arrivée de certains joueurs, de certains jeunes qui rentrent dans ce groupe, qui vont peut-être venir bousculer la hiérarchie, et aussi peut-être des certitudes qui vont enfin arriver. On en a déjà parlé pendant la Coupe du Monde, mais par exemple, pour moi, un Jalibert ou un Maxime Nucu, ce sont des finisseurs. Et le match d'hier nous l'a encore montré. Bon, Jalibert n'était pas sur le terrain pour le montrer, mais voilà, Thomas Ramos en 10, ça fait très bien le taf. Je ne suis pas certain que Jalibert aurait fait cette prestation-là hier. Par contre, je suis très content pour Maxime Nucu qui a pu marquer un essai à la fin du match. On a senti l'émotion chez lui au moment de marquer l'essai. On a vu aussi l'émotion de ses coéquipiers. Parce qu'il faut quand même le rappeler que Maxime Nucu en a pris plein la tronche pour rester assez poli du fait de l'absence d'Antoine Dupont, qu'il ait eu beaucoup de pression sur les épaules et que ben, malheureusement pour lui, il est tombé avec ce numéro 9 sur le dos au mauvais moment. Mais je pense que son rôle dans cette équipe de France, c'est ça, c'est d'être un joueur qui peut venir sécuriser un score lorsque le travail est déjà fait. Voilà, je pense qu'en tout cas, cette équipe de France, elle est en train d'évoluer dans le bon sens. Et j'espère que voilà, on pourra capitaliser sur cette victoire face aux Anglais, avec comment on l'a fait en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que même si ça a été difficile, on est resté chez eux. On a pris des points quand il le fallait, quand on a eu l'opportunité. Il y a un moment où les joueurs ne se sont pas entêtés à aller en touche quand il fallait prendre les trois points. Et à mon avis, c'est ça. C'est aujourd'hui être pragmatique et arriver aujourd'hui peut-être à jouer un peu plus aussi ballon en main. Enfin, on l'a vu. J'ai eu un petit regret sur ce match-là, c'est que Galtier soit pas allé jusqu'au bout en alignant Moefana avec deux porteurs, histoire d'avoir toute la ligne de trois quarts quasiment de l'UBB. Ça aurait été un clin d'œil assez sympa, mais voilà, Ficou a fait aussi du bon travail sur ce match-là.
On a senti Lucu très ému quand il a marqué son essai. Premier essai en 22 sélections. Lui qui a regardé la dernière Coupe du Monde dans un bar, il me semble, et qui l'a joué la dernière. Donc c'est très beau parcours de Maxime Lucu.
Très beau parcours. Et d'ailleurs, la photo de l'essai est magnifique, a été prise par tous les articles. On dirait presque une toile. Très très beau.
Ah ouais, je l'ai pas vu.
Si jamais vous la voyez passer, vous la remarquerez de suite. Très très jolie photo.
Voilà, c'est vrai que c'est bien aussi de voir cette émotion de Lucu qui a pas toujours été très performant sur les derniers matchs et qui là marque un essai qui scelle la victoire du 15 de France qu'on a plutôt retrouvé.
Oui.
On a vu quelques belles choses. Ah, Julien, il n'est pas d'accord. Hein.
Si. Et surtout, à noter surtout la discipline qu'on a eue, parce qu'il me semble qu'on a fait que 3 fautes.
Ça, c'était.
C'est un record. Avant,
et même le match en général, parce qu'il n'y a eu que 10 fautes en tout.
La discipline, c'est un des mots du 15 de France. On est indiscipliné au possible, et quand on ne l'est pas, on est.
Ça dépend. Enfin,
ça dépend.
C'est pas régulier, mais on devrait être.
Il y a beaucoup de fautes demain.
Je crois que les en avant, c'était incroyable.
Il y a eu 28 en avant de mémoire.
Ouais.
Il y a eu 17 côté gallois. Et, non, 17 côté français et 11 côté gallois.
C'est compliqué.
Après, en même temps, ça expédie assez vite. Donc, bon, voilà. Il faut choisir. Soit on joue lentement et on sécurise et c'est bon. On s'ennuie un petit peu. Soit, voilà, bon, on prend le risque, justement, de faire des maladresses, mais d'offrir un beau spectacle. Et c'est ce qu'on a eu.
L'essai de. Je sais plus, il y a un essai où ils ont enchaîné des passes très rapidement. À l'instinct, presque. Sans regarder le joueur derrière.
L'essai de Ficou, peut-être, non ?
Je crois que c'est l'essai de Ficou. Ils enchaînent 4 passes, ils ne se regardent pas, ils jettent le ballon, et ça tombe dans les bras, et ils jettent et c'est incroyable.
Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le plaisir d'avoir des gens qui jouent ensemble en club. Alors, ce n'est pas parce que c'est le Stade Toulousain, mais pour le coup, vraiment, ce mouvement, il démarre très bien, parce que, en fait, le Garek le donne déjà l'éjecte rapidement, comme disait Julien, oui. Le Garek a éjecté très rapidement, et je crois que c'est le record du match où Galtier, où il y a eu le plus de ballons éjectés en moins de 3 secondes. Parce qu'en gros, pour les coachs, on fait les ballons éjectés en moins de 3 secondes, entre 3 et 6 secondes, et à plus de 6 secondes. Sachant qu'à plus de 6 secondes, vous avez quand même une sacrée chance d'être pénalisé par l'arbitre, parce que généralement, on estime que c'est trop long. Donc le Garek éjecte très rapidement, il la donne à Méafou, et en fait, Méafou, on le voit souvent avec le Stade Toulousain, il a l'habitude de piquer vraiment au cœur du jeu, de le remettre dans son dos sans même regarder. Alors généralement c'est avec Dupont, là pour le coup ça a été avec Ramos, il a exactement fait ça, il l'a remis avec Ramos, et c'était vraiment un mouvement très bien joué, parce que y a 3 Gallois qui s'étaient mis sur Méafou pour essayer de l'arrêter, et donc forcément après Ramos qui en plus faisait une course en travers, donc il a rapidement pu prendre de court les Gallois qui glissaient, et après
Ramos qui met un raffut incroyable.
Oui, pour un autre, ouais, ouais. Pour un autre essai.
Il n'y a pas eu essai, justement.
Où c'est Barré qui se prend, malheureusement.
C'est Barré qui relâche le ballon.
Pas beaucoup de chance.
Là, c'était l'enchaînement de passe pour Penaud, puis...
Ouais. Comme quoi, il y a de belles choses. Il y a des choses qu'on revoit maintenant, qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne voyait plus, du moins, et qu'on a revu là pour ce match.
Sur ces 3 premiers matchs, oui, on n'avait pas du tout eu ça.
Non, c'est clair, c'est clair.
Une bonne nouvelle, quand même, pour l'équipe de France, mais ce n'est pas terminé, il reste l'Angleterre samedi.
Mais c'est peut-être Ramos en 10, finalement, qui change peut-être.
Peut-être. Franchement, il avait déjà été excellent sur les différentes finales qu'avait connues le Stade Toulousain avec Ramos en 10, alors plus souvent dans la gestion du match que vraiment dans l'animation offensive, Mais là, effectivement, ça fait plaisir de voir un joueur qui est aussi, je pense, décomplexé, parce qu'il connaît très bien le poste en même temps, mais en même temps, il sait très bien que s'il fait une mauvaise performance en 10, ça va pas, il va pas être expédié hors de l'équipe France, il va juste revenir en 15. Donc, voilà.
Et la confiance qu'on attribue à Le Garec après son très beau premier match
Très belle première titularisation. Il faut quand même qu'il s'applique un peu encore sur les passes. Il y avait trop de passes qui étaient à la limite où il prenait avec le bout des doigts. Mais ça, vraiment, c'est du. C'est mon titi. C'est pour ses premières sélections. C'est quand même très très bien ce qu'il fait. Ouais. On chipote. Ça arrivera avec le temps, avec le rythme au niveau international.
Un point classement pour ces 6 nations: Irlande-Angleterre, Écosse-France, Italie, Pays de Galles, bon dernier. Très bon tournoi de l'Italie. Au final, la France, une défaite, un nul, 2 victoires. C'est pas un mauvais tournoi.
C'est pas mauvais, surtout s'il gagne contre
de mauvais match, mais pas un mauvais tournoi.
D'ailleurs, l'Italie qui a doublé l'Australie au classement World Rugby aujourd'hui.
C'est une info qu'on apprécie, Aaron.
Voilà, ils sont 9e ou 8e. Ils pourraient, non, ils sont 9e et le 8e est le Pays de Galles qui pourrait doubler.
On se posait la question de savoir s'il fallait les laisser dans le tournoi de destination. À un moment, maintenant, il y avait ce genre de débat.
Ouais, ils battent l'Écosse.
Ça travaille bien en Italie.
Il n'y a plus de débat là maintenant, je pense.
Et Rouen, les petites équipes, ça vous passionne?
Mais bien sûr, vous le savez. Voilà. D'ailleurs, je serai peut-être, oui. Tout dépend de l'accréditation que normalement doit m'accepter cette semaine, mais je serai peut-être à Jean-Brun pour voir Portugal-Géorgie.
Ah, et ben alors là, on demandera une chronique, Erwan.
Eh bien, écoutez, avec plaisir, si je suis rentré lundi, parce que c'est le dimanche soir. Donc,
ou par téléphone, vous savez, on est très arrangeant dans l'émission.
Mais pas de souci.
Voilà, donc on a hâte de voir le match de ce week-end. Ce week-end est justement... C'est le pronostic, vous le savez, ça tombe en fin d'émission à chaque fois. La semaine dernière, tout le monde avait vu juste, même notre invité, Franck Debrayi, qui était avec nous. Non, lui, s'était trompé, il avait vu le Pays de Galles. Il m'a même envoyé un mail en me disant, voilà. Bon, ça restera entre nous. Voilà, on ne lui en veut pas, évidemment, on le réinvitera prochainement, s'il est disponible pour reparler triathlon. En tout cas, tout de suite, on va parler d'un prochain match. Vous le savez, France-Angleterre, samedi 16 à 21h à Lyon. Et Rouen, 30 secondes, top départ.
Alors l'Angleterre va jouer pour essayer de remporter le tournoi destination. Nous, on va jouer pour essayer de leur enlever le tournoi destination. Je pense qu'on pouvait, avec le début de tournoi, on pouvait pas rêver de meilleur scénario pour l'ultime match, parce qu'on adore embêter nos voisins anglais. Et par conséquent, je pense que ce sera un match très serré, un match très offensif, très rythmé, vraiment un vrai beau match international. Et je mise sur une victoire de l'équipe de France de quelques points.
Et ça, c'est beau, le timing 30 secondes pile. France, je vous ai même coupé le micro, vous avez vu. France, quelques points. Bah écoutez, je note. Bon, je mets France à quelques points. Julien, attention, 30 secondes pour nous donner le résultat de ce crunch.
Bah écoutez, pour une fois, je partage l'avis d'Erwan. Donc, forcément, on risque de d'avoir un match assez rythmé. Avec des Anglais qui, eux, vont arriver avec le couteau entre les dents, surtout avec l'ultime contre-performance de l'année passée. Mais comme il disait exactement, les Anglais vont essayer de faire gagner ce tournoi et nous, leur enlever. Mais surtout, nous, on a quand même à sauver l'honneur, parce qu'on est quand même attendu pour finir premier ou deuxième. Donc bon, victoire de 5 points de l'équipe de France.
Oui, Erwan, vous avez vu, il a eu quelques secondes en plus, ne m'en voulez pas. Il a tourné. C'est un vrai arbitre, Erwan. Attention, Corentin, niveau arbitrage, vous avez de la concurrence.
De la concurrence, ouais.
Et justement, Corentin, vous, 30 secondes, c'est parti.
Ça va être compliqué, je pense, pour l'équipe de France, mais on a vu qu'avec le retour de pas mal de joueurs flamands, Méafou, et puis les finisseurs qui maintenant sont à leur place, puisque finalement, quand les finisseurs sont titulaires, c'est compliqué, mais quand ils sont finisseurs... Ils arrivent à faire le job comme il faut. Ça devrait le faire pour l'équipe de France quand même. Je dirais une victoire 30 à 20. Pas forcément un bonus offensif, puisque à mon avis, ça sera serré au début du match et qu'on fera une grosse différence avec les pénalités et des 3 points inscrits par Thomas Ramos.
Et bien voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour profiter de ce match. C'est samedi 16 mars à 21h, France-Angleterre à Lyon. Merci tout le monde d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ben, un grand
merci.
Plaisir. Hein.
Merci aussi à Gaël Robert qui était avec nous pendant cette émission. Allez, bonne semaine et à bientôt.